C'est votre nature sur France Bleu Cotentin. Emmanuel Gouache.
Bon, j'imagine, Anthony Rimbaud, que vous avez déjà fait du camping.
Oui, évidemment.
Vous avez dormi en tente.
Sous la tente et tout, c'était trop bien.
Bon.
Sauf quand il pleut.
Bah oui, forcément.
Mais ça fait des bons souvenirs au final.
Moi, je me souviens avoir flotté sur une flaque d'eau. Je sais plus dans quelle région j'étais. Gros orage. Et on s'est mis vraiment véritablement à flotter.
Ouais. Puis moi, je me souviens être levé à faire des tranchées pour évacuer l'eau.
Oui, c'est ça.
Et ça fait des bons souvenirs. Ben, on rigole pas sur le moment, mais ça fait des bons souvenirs.
C'est l'aventure.
Vous n'étiez pas sur un bateau, en fait.
Non.
Parce que flotter sur une flaque d'eau, ça peut être aussi être sur la mer ou une rivière.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi un habitat nomade, finalement,
oui,
le bateau.
Tout à fait. Ouais.
On est avec Emmanuel Fauché du CAUE de la Manche et on parle d'habitat nomade, d'habitat léger. Donc on parlait des tentes, des caravanes et il y a plein d'habitats comme ça un peu nouveaux. On parle des tiny house par exemple. Vous qui travaillez sur l'architecture, le conseil notamment, est-ce que ça, ce sont des nouveaux projets que vous voyez arriver, ces nouveaux habitats-là ?
Alors, c'est deux demandes qui sont différentes. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, il est très réglé, il est très codifié avec des réglementations, avec des lois, avec des cadrages de territoires sur lesquels on peut construire et d'autres sur lesquels on ne peut pas construire. Et finalement, on reste dans une habitude d'aménagement qui fait qu'on a les mêmes propositions, aux mêmes questions qui sont posées par les habitants. Et aujourd'hui, on voit apparaître en fait de nouveaux modes d'habitation, de nouveaux usages. Des territoires qui sont parfois illégaux. Ça, c'est franchement dommage. Et je pense qu'il serait intéressant de les regarder pour ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire peut aussi s'enrichir de comportements nouveaux, différents, qui questionnent la manière avec laquelle on vit aujourd'hui.
Jusqu'à 10h, c'est votre nature sur France Bleu Cotentin.
Oui, et on va en parler, donc jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin dans C'est votre nature avec Emmanuel Fauché, parce que effectivement, ça pose question cette histoire. 02 33 23 13 23, vous l'avez dit, on va rappeler la loi aussi, parce que je pense que c'est important de rappeler la loi. On sait que pas très loin d'ici, il y a une affaire qui a secoué un petit peu les médias il y a quelques temps de ça. Olivier et Livia qui donc ont choisi d'habiter dans ce qu'on appelle un habitat léger entre guillemets dans la baie du Mont-Saint-Michel, jugé illégal par la commune à Rose-sur-Couesnon dans l'Ille-et-Vilaine au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on fait en sorte de vivre de manière autonome au niveau énergétique et alimentaire grâce à la permaculture dans un lieu qu'ils ont construit de leurs mains, une cabane en quelque sorte, et qui a un impact un peu moins important sur l'environnement. C'est ce qu'ils défendent en tout cas. Vous avez entendu parler, j'imagine, de cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout à fait. Puis il y a même eu un reportage qui a été fait sur cette famille. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure prend son sens. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, construire en fait en France, c'est nécessairement répondre à la réglementation. Donc le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal ou le règlement national de l'urbanisme, qui est codifié, géré aussi par un schéma de cohérence territoriale. Donc un tas de mots, un tas de réglementations, de lois, de textes. Qui codifie la manière avec laquelle on peut construire et vivre sur nos territoires. Et mine de rien, depuis 60 ans, depuis 70 ans, les territoires qu'on appelle, qu'on souhaite, qu'on désire être conviviaux, être intéressants, être paysagers, sont toujours autant goudronnés, sont toujours autant minéraux. Nos villes, nos bourgs ne répondent pas ou répondent moins à nos désirs d'habiter contemporain et moderne. Si on ajoute à ça la nécessité d'être dans des mouvements d'économie, d'usage de la ressource, d'économie, d'usage de l'énergie, d'autonomie du point de vue de la nourriture et de l'alimentation, on se rend compte qu'il y a une déconnexion de plus en plus grande qui s'opère entre le fait d'habiter dans une ville ou un village sur un territoire et le fait de participer à la vie, à l'économie, au respect de ce territoire. Et ces exemples-là, même s'ils sont illégaux, de mon point de vue, on a des enseignements à en tirer. On a des accompagnements à faire, et plutôt que de s'opposer brutalement, le maire de cette commune, dans son positionnement, a tout à fait raison, c'est-à-dire que le site n'était pas ouvert à la construction, donc une construction sur ce site est illégale parce qu'il n'a pas donné d'autorisation d'occupation du territoire. Mais il n'empêche que...
Le fameux permis de construire, mais il n'empêche que
cette famille, en s'installant dans ce paysage, l'a fait sobrement, dans le respect du site, et produit de manière tout à fait responsable environnementale. On est ce matin dans l'émission qui depuis le début de l'année s'appelle C'est votre nature, et c'est une famille qui est tout à fait en lien avec la nature dans son quotidien. Et je pense que ça nous amène des enseignements, ça nous explique un certain nombre de choses. Et de mon point de vue, ça nous oriente vers la nécessité d'accompagner ce genre de démarche. Plutôt que de s'opposer, et donc d'opposer des lois, on peut accompagner en fait une démarche, et on peut même être amené à réfléchir sur nos propres positionnements réglementaires, et la loi pourrait changer.
Bon, donc ça, effectivement ça pose question, mais effectivement on ne peut pas non plus s'installer de façon sauvage n'importe où. Il y a des lois, il faut faire attention, il y a des normes, il y a un environnement qu'il faut respecter, et donc forcément on n'appelle pas à s'installer n'importe où, n'importe comment, mais peut-être qu'il faut avoir une forme de réflexion autour de cette question de l'habitat léger, de l'habitat nomade dans C'est votre nature ce matin, avec Emmanuel Fauché du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des habitats légers et des habitats nomades comme ça ? Parce que d'abord c'est l'été et que c'est la période de l'habitat léger avec les campings, les tentes, etc. Et puis aussi parce que c'est une question autour de l'environnement également, parce que ces habitats-là ont forcément un impact beaucoup moins important sur la nature, parce qu'il n'y a pas de, la plupart du temps, on ne construit pas de fondations. Et puis parce que voilà, on respecte a priori l'environnement dans lequel on se trouve. La question est la suivante. Est-ce que ces habitats-là posent des questions, cette façon en tout cas d'habiter le monde, ça pose des questions sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Est-ce que ça apporte des réponses?
Alors, ça nous interroge en tous les cas. Vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas de fondation. Oui, quand on plante une tente dans un camping sur une aire gazonnée, ben on laisse le sol tel qu'il est. Lorsqu'on enlève la tente, le sol retrouve son usage. Et dans le monde dans lequel on est, en fait, quand on souhaite vivre dans un endroit, on décaisse le sol, on installe un empierrement et on coule une dalle en béton. Donc là, il y a déjà... Ça pose une question du point de vue de l'usage. Lorsqu'on utilise une tiny house ou lorsqu'on construit, comme Olivier et Livia, une petite maison, généralement on l'installe sur des petits plots, donc au-dessus du sol. Et si jamais on a à déconstruire cette maison, on retrouve le sol dans son état naturel. Et de la même manière, quels que soient les équipements qu'on fabrique dans notre quotidien, ben, on vient installer dans le sol un tas de matériaux industrialisés qui le polluent et qui permettent difficilement un retour à l'état initial du sol.
On a parlé des cabanes aussi, y compris des cabanes dans les arbres, dont on parlait avec Anthony Rimbaud tout à l'heure.
Tout à fait. Et donc ça pose vraiment la question de notre rapport à la nature. Et c'est la question que vous posez depuis le début de la saison. Quel est notre rapport à la nature ? Est-ce qu'on la regarde un petit peu de loin, comme si on avait un aquarium et des poissons dedans, et le fait d'avoir un aquarium avec des poissons dedans suffit à nous dire qu'on a un lien avec la nature ? Ou est-ce qu'on se positionne un petit peu différemment ? Et puis, dans certains... Je pense à des particuliers qui viennent nous rencontrer, et dans certains bâtis anciens, parfois nous on propose de conserver la terre battue dans une pièce parce que ça va devenir un cellier, et que dans ce cellier-là, la terre battue permet de gérer l'hygrométrie et l'humidité. Les gens sont surpris lorsqu'on fait cette proposition-là, mais nécessairement, en fait, c'est une économie dans la réalisation du chantier, parce qu'on ne va pas décaisser le sol, on ne va pas installer une dalle en béton, et puis on ne va pas éventuellement faire un sol carrelé qui va permettre au cellier d'avoir une allure contemporaine. Et donc cette attention-là, au retour aux choses, quand on travaille sur un mur en pierre, quand on travaille sur un bâti ancien, il y a des tas de petites populations qui sont sur les murs, des bourdons, des guêpes, des mouches, des chauves-souris qui viennent manger, c'est leur garde-manger. Et le fait d'installer des matériaux modernes, en fait, éloigne ces populations-là. Et le fait du nomadisme, le fait d'avoir accès et d'avoir l'usage, en fait, de petites structures d'habitation dans le cadre du déplacement, vous le disiez tout à l'heure, c'est un retour à ce qui est ancré dans nos gènes, le fait des cueilleurs-chasseurs, cueilleurs ou des pêcheurs.
Le nomadisme, le voyage.
J'ai du mal à les consonnes ne sont pas venues comme il fallait. C'est le voyage, c'est le déplacement, et le fait du déplacement, c'est pouvoir habiter un lieu qui est le nôtre, parce qu'il faut s'y identifier. Donc il faut retrouver l'endroit où on range ses couverts, les serviettes, enfin voilà, où on peut dormir confortablement, et en plus dans un lien frugal avec notre environnement, c'est-à-dire s'installer temporairement dans un lieu qui peut être destiné pour cette activité-là. Et alors, ils existent aujourd'hui, hein. On a les plateformes, les lieux d'accueil de camping-car, on a les campings, on le disait tout à l'heure, pour accueillir les tentes, les caravanes, les mobilhomes qui sont installés. On a des lieux qui acceptent des autorisations temporaires d'usage pour des tiny houses. Enfin voilà, il y a des tas de lieux qui existent dans des réglementations urbaines pour accueillir une forme d'habitat nomade, mais il y a des expériences qui vont au-delà, qui sont des expériences de vie sur le long terme, pérennes, avec des propositions qui, de mon point de vue, sont légitimes, même si elles sont illégales, elles posent des questions légitimes, et il est très intéressant et pertinent de rencontrer ces expériences-là, ces gens-là, de leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans ces directions, et on le voit dans tout le travail qui a été fait autour de Olivier et Livia. C'est une expérimentation qui vient aussi d'Amérique du Sud. Enfin, c'est des pratiques qui sont en lien avec la permaculture. C'est une nécessité d'avoir un usage autonome d'une énergie produite, un usage autonome d'une eau récupérée sur un site. Et puis, ma foi, on se rend compte que ce fonctionnement-là est beaucoup moins impactant pour la nature que notre fonctionnement quotidien est normal.
Alors effectivement, c'est une autre relation aussi à l'environnement, à la nature, mais forcément, certains et certaines d'entre vous, peut-être, ils se disent, bah oui, mais enfin bon, il y a une sorte de forme de retour en arrière, on n'a peut-être pas envie de revivre comme on vivait il y a 50 ans. C'est peut-être une des questions qu'on peut aussi se poser. Vous pouvez nous appeler au 02 33 23 13 23. C'est votre nature jusqu'à 10h avec Emmanuel Fauché du CAUE de la Manche, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et on parle aujourd'hui, et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer, hein, si vous avez également des anecdotes à nous raconter ou des histoires à nous raconter en ce qui concerne l'habitat léger ou l'habitat nomade, votre vision un petit peu de tout ça, au 02 33 23 13 23, vous êtes les bienvenus. Mais éventuellement, si vous avez des questions aussi, est-ce que vous avez, Emmanuel Fauché, des gens qui vous appellent au CAUE de la Manche, justement pour des questions d'installation en format habitat léger, on va dire?
Alors, on a eu des questions sur des autoconstructions de tiny house, mais généralement, les gens arrivent, ils sont très informés. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir sont très informés sur ces questions-là et puis nous posent des questions d'installation urbaine. Et puis, on a eu des questions qui sont des entre-deux. Des gens qui ont rénové une maison et qui recherchent une extension parce que la maison était trop petite, et on sent bien que l'extension elle n'est pas forcément collée à la maison. Donc on a fait des propositions, on a accompagné des particuliers dans des propositions de construction d'un petit édifice dans le terrain à 15, 20 ou 30 mètres en fait de la maison, pour avoir cette impression de sortir de la maison pour aller dans un lieu, un salon de lecture, un atelier, je me souviens d'un bureau par exemple, ou d'une petite chambre en extension pour accueillir des gens. Dans le monde dans lequel on est, on regarde la maison et puis on recrée un élément qui est collé à la maison. Et là, la proposition, le souhait de ces gens-là, c'était de se dire, bah, on accueille, mais en dehors de la maison.
Et donc on
s'approche de cet état d'esprit, mais on n'est pas on n'a pas de demande en tant que telle de gens qui entrent dans une forme de nomadisme ou qui souhaitent s'installer sur une zone qui n'est pas appropriée pour recevoir un habitat.
Mais si dans son jardin on a envie d'installer une tente mongole ou une tente indienne par exemple,
un tipi
par exemple, effectivement, pour avoir un endroit pour loger, pourquoi pas des amis de passage, ou pour faire un bureau ou je ne sais quoi, est-ce que là on a besoin d'un permis par exemple?
Dès qu'on installe en fait une surface habitable dans un lieu, en fait on a besoin à minima d'une autorisation temporaire du sol ou d'un permis de construire, dès qu'on est dans des surfaces qui sont amenées à faire en sorte qu'on aura un habitat en dur, en fait, qu'on ne peut pas démonter. Donc toute installation d'objets en dehors de tout petits abris de jardin nécessite en fait une autorisation d'urbanisme. Tous les éléments en fait qui nous amènent à construire des lieux d'habitation ou d'usage dans nos territoires nécessitent des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et pour ça, elles sont réglées par les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, par le règlement national de l'urbanisme, par les intercommunalités qui ont construit ces règles d'aménagement. Mais nos installations en fait ne peuvent pas se faire en dehors de ces réglementations.
Ce que les Mongols font pas dans la steppe.
Du tout. D'ailleurs, c'est assez difficile de reconnaître une mairie d'un habitat en Mongolie parce qu'elles se ressemblent toutes. C'est toutes des yourtes. D'ailleurs, ils en mangent au dessert aussi.
Des yourtes? Des yourtes au chocolat, des yourtes à la fraise. 02 33 23 13 23. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez.
C'est votre nature, tous les samedis sur France Bleu Cotentin.
avec Emmanuel Fauché du CAUE de la Manche. Tout ira mieux demain parce qu'on envisage peut-être les choses petit à petit différemment, y compris notre habitat. Et notre habitat, là, on parle dans C'est votre nature ce matin de l'habitat léger ou de l'habitat nomade. Comment justement on se projette dans le futur par rapport à cette vision de l'habitat, ce genre de thématique? Est-ce que vous avez l'impression que ça dit quelque chose du monde dans lequel on est et du monde dans lequel on va vivre demain?
Alors, ça dit très clairement quelque chose, à savoir, est-ce qu'on sait l'écouter? Je ne suis pas certain encore, puisqu'on continue à avoir les mêmes modes de construction et d'habiter sur nos territoires. Mais je pense qu'il faut absolument écouter ce qui se passe à ces endroits-là et ce que proposent en fait les gens qui souhaitent et qui font la démarche de s'installer de cette manière.
Ça veut dire que vous, véritablement, professionnel de l'urbanisme aujourd'hui, ces questionnements-là, vous les avez? Vous vous dites, tiens, c'est ça, il ne faut pas qu'on oublie d'y penser?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le modèle traditionnel qu'on a aujourd'hui, c'est une maison pavillonnaire qui est installée dans un lotissement ou dans un quartier urbain, et on va goudronner la cour d'accès à la maison et avoir un tout petit carré de gazon parce que c'est pas facile d'entretenir la nature. Et là, on a impacté durablement, lourdement, cruellement la ressource. La proposition d'Olivier et Livia, c'est s'installer dans le respect du sol, dans le respect du site, de faire en sorte que la richesse du site fabrique, soit nourricière finalement.
Olivier et Livia qui sont installés dans la baie du Mont-Saint-Michel avec une cabane de façon illégale.
Illégale, tout à fait. On est. Mais il n'empêche que la question qu'ils proposent ou l'expérimentation qu'ils ont en fait est de nature à faire évoluer en fait notre comportement et la manière avec laquelle on peut gérer l'aménagement du territoire.
Mais on peut pas tous vivre dans des habitats légers ou des habitats nomades dans l'avenir.
Vous avez raison, Emmanuel. Et en plus, personne ne le souhaite forcément. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec ce mode d'habiter, qui ne souhaitent pas y aller. Mais en tous les cas, leur proposition nous permet de dire qu'à proximité d'un bourg, à proximité d'un petit village, il peut avoir un lieu de production maraîchère modeste et qui permet à ce petit village d'avoir une autonomie avec une ressource de proximité. Donc on est bien dans un lien à la nature et dans le fait de recevoir ce qu'elle nous propose.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut peut-être que chaque commune pense à la possibilité de pouvoir laisser un endroit possible pour des gens qui viendraient s'installer avec un habitat léger ou un habitat nomade, et pourquoi pas pour produire des légumes pour le village.
Ah, mais tout à fait. Ouais. Et je pensais à une association qui s'appelle peut-être toujours Terre de Liens, en fait, qui avait des démarches
qui existent toujours, oui.
Dans ce sens, et qui permet à des gens de s'installer. Alors là, pour le coup, dans des habitats qui ont été identifiés, qui peuvent être réhabilités sur des terres agricoles qu'on peut utiliser. Mais au-delà de ça, soyons à l'écoute des expériences nouvelles et différentes, plutôt que d'essayer de faire rentrer ces gens et ces familles dans un rail social qu'on imagine être celui qu'il faut suivre, alors même que on va rechercher 15 jours de camping cet été, et on va en profiter pour la différence et pour le bien-être que ça nous apporte.
Ouais, il y a une forme de paradoxe hein, dans tout ça, effectivement, ouais. Ce bonheur qu'on a à se retrouver dans la nature, dans un habitat léger et nomade, et la vision qu'on peut en avoir au jour le jour. Vous écoutez France Bleu Cotentin, c'est votre nature. On se retrouve une dernière fois dans quelques instants avec Emmanuel Fauché pour faire une petite conclusion, voilà, de notre émission et de notre collaboration avec le CAUE de la Manche pour toute cette saison. On est avec Emmanuel Fauché, le CAUE de la Manche, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, donc un organisme que vous pouvez consulter, notamment si vous êtes en train de réfléchir à un permis de construire, par exemple. Et donc on a parlé ce matin d'habitat nomade, d'habitat léger. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Finalement, on a déjà pas mal balayé la conclusion de tout ça. C'est soyons curieux, soyons à l'écoute. Il y a peut-être 2-3 solutions dans ces histoires d'habitat léger et d'habitat nomade.
Voilà, il y a des propositions, et des propositions qui sont extrêmement larges. Il y a des propositions qui sont économiques sur la question de la construction, tout simplement. C'est avoir du lien avec des savoir-faire, retrouver le lien avec des matériaux dans un usage économique pour la construction. Ça nous permettra aussi peut-être de modérer l'économie de la construction qui s'envole, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus cher, de plus en plus difficile d'accéder à la propriété, et ça coûte de plus en plus cher. Donc là, il y a des solutions qui apparaissent, construire un peu plus petit, avoir des usages d'espace mieux pensés, mieux organisés, posés sur le sol sans fondation, donc en respectant en fait la nature, peut-être en n'ayant pas besoin de goudronner le sol pour se garer. J'ai rencontré un élu du Sud-Manche très récemment qui me disait qu'il a installé en fait une bande de 10 places de parking en mélange terre-pierre. Ça lui a coûté 5 fois moins cher qu'une solution contemporaine, drainante, industrialisée.
Donc en fait, il faut réfléchir un petit peu aux choses et pas s'embarquer tout de suite dans des solutions toutes faites.
Voilà, il faut regarder les expériences qui existent, être attentif à ce qu'elles proposent et se dire que ça peut organiser une production collective.
Merci beaucoup Emmanuel Fauché d'avoir été avec nous durant cette saison.
Merci François Cotentin.
Vous serez là, j'espère, à partir de septembre pour de nouvelles aventures avec C'est Votre Nature.
Avec très grand plaisir.
Et merci de nous avoir accompagnés. En tout cas, c'est à chaque fois passionnant. Très bonne journée à vous.
C'est un plaisir d'être reçu par vous.
À bientôt Emmanuel Fauché.
À bientôt Emmanuel, merci.
Le CAUE de la Manche que vous pouvez évidemment contacter. Si vous...